Évangile selon Matthieu, chapitre 17. La Transfiguration, versets 1 à 8.
Lecture de la parole. Après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre, répondant, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul.
Lecture de l'étude. Ces versets nous montrent comment devaient se réaliser les paroles que Jésus a prononcées au verset 28 du chapitre précédent. Il conduit Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, et là, transfiguré devant eux, son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent aussi en gloire, comme nous l'apprend l'Évangile selon Luc. Cette scène dans Matthieu, présente la personne de Jésus, le Fils de l'homme, venant dans son royaume en gloire, afin de fortifier la foi des disciples lorsqu'ils auront à rendre témoignage de lui après sa mort. Ils avaient cru qu'il était le Messie, le Christ, et ils attendaient l'établissement de son règne glorieux. Au lieu de cela, Jésus leur défend de dire qu'il est le Christ et leur parle de ses souffrances et de sa mort. Une révélation pareille, anéantissant, semble-t-il, tout ce qu'ils avaient espéré, pouvait bien ébranler leur confiance. C'est pourquoi Jésus veut les rassurer par la vue de sa gloire, afin de fortifier la foi qu'ils possédaient déjà en lui comme Messie. Pierre se fonde sur cette manifestation glorieuse de Jésus pour encourager les croyants juifs, auxquels il adresse ses épîtres, à attendre sans défaillance le royaume en gloire, lorsqu'il leur dit « Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. » De Pierre 1, verset 16. La présence de Moïse et d'Élie parlant avec Jésus a une haute signification. Moïse avait donné la loi. Élie était le grand prophète suscité pour ramener à la loi le peuple voué au culte de Baal, 1 Roi chapitre 18. Ces deux hommes représentaient donc la loi et les prophètes, dont le ministère resta inutile au milieu du peuple à cause de son incapacité d'obéir et de sa volonté opposée à Dieu. Puis le Messie était là pour établir son règne, mais le peuple le rejetait. De sorte qu'au lieu de jouir des bénédictions promises, les Juifs allaient au-devant du jugement, plus d'espoir pour eux sur le pied de leur responsabilité. Mais lorsque tout est perdu du côté de l'homme, les ressources divines apparaissent, toutes concentrées sur la personne de Jésus qui, au lieu de monter au ciel avec Moïse et Élie après leur entretien, ira à la croix accomplir l'œuvre de la rédemption. Quand les disciples virent ces deux éminents personnages avec Jésus, Pierre dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. » Pierre pensait honorer Jésus en le mettant au premier rang de ses illustres serviteurs de Dieu. Il ne connaissait pas encore la gloire de sa personne, ni l'importance qu'il y avait à l'écouter. Aussi Dieu, le Père, jaloux de la gloire de son Fils, fait entendre sa voix aussi bien lorsqu'on veut le mettre au rang des plus grands hommes de Dieu que lorsque lui-même prend la place au milieu des pécheurs et se fait baptiser par Jean. Matthieu 3, verset 17.
Et voici une voix qui venait des cieux disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir ».
C'est lui qu'il faut écouter maintenant, puisque Moïse et Élie ne l'ont pas été, et que leur ministère n'a pas eu de résultat pour le peuple. La ressource de Dieu est donc dans son Fils bien-aimé. Cette voix, cher lecteur, s'adresse à vous encore maintenant, comme à tout croyant et à tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Écoutez-le, dit Dieu le Père. Écoutez celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos », Matthieu 11, verset 28. « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi », Jean 6, verset 37. « Écoutez, et votre âme vivra », Ésaïe 55, verset 3. « Il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés », Acte 4, verset 12. Entendant la voix de Dieu et voyant la nuée les couvrir, les disciples tombèrent le visage contre terre, saisis d'effroi. Cette nuée était le signe de la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Lorsque le tabernacle fut achevé au désert, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation à cause de cette gloire dans laquelle nul n'avait jamais été admis. Exode 40, 34-35. Plus tard, lors de la consécration du temple de Salomon, la gloire de l'Éternel le remplit, et les sacrificateurs ne purent y entrer non plus. Deux Chroniques 7, verset 1 à 3.
Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les fils d'Israël, voyant descendre le feu, et la gloire de l'Éternel sur la maison, s'inclinèrent le visage en terre sur le pavement, et se prosternèrent et célébrèrent l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours.
Cette gloire quitta le temple lorsque Israël partit en captivité, Ézéchiel 10. Les disciples pouvaient donc être effrayés en se voyant couverts de cette nuée que Pierre appelle « la gloire magnifique » de Pierre 1, 17. Mais ils avaient avec eux celui qui avait quitté la gloire afin d'y faire entrer de pauvres pécheurs tels que Moïse et Élie, vous et moi et tout croyant. Lui seul pouvait leur dire « levez-vous et n'ayez point de peur ». Si Pierre avait eu à ce moment-là l'intelligence de ce qui se passait, comme il l'eut plus tard, il aurait compris sa folie. Lorsque Jésus leur parlait de sa mort et qu'il lui répondait « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Car si Jésus n'était pas mort pour expier les péchés, jamais homme n'eût pu être introduit dans la gloire de la présence de Dieu. Quel amour que celui de Jésus! Combien le cœur peut être touché en présence d'une scène semblable où nous voyons de pauvres pécheurs, tels que nous, introduits dans la même gloire que Jésus, parce qu'il allait subir la mort pour satisfaire la justice de Dieu à l'égard du péché. Lorsque les disciples levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Moïse et Élie avaient disparu, car dans l'économie de la grâce que le Seigneur introduit alors, la loi et les prophètes font place à Jésus qui seul peut placer l'homme dans la bénédiction promise. Ainsi, dans la scène de la transfiguration, nous voyons, pour ce qui regarde les promesses faites au Père, que, par la foi, le croyant a la certitude que le Christ, le Fils de l'homme, établira son royaume en gloire. Les saints célestes y participeront, ressuscités et transmués, représentés par Moïse, que Dieu a enseveli, et par Élie qui monta au ciel sans passer par la mort, et aussi les croyants qui seront alors sur la terre, représentés par les trois disciples. En attendant le royaume, les disciples possèdent, par la foi, une part céleste avec Christ, objet du cœur de Dieu, objet de leur cœur, celui qui reste avec eux qu'ils doivent écouter, puisque la loi et les prophètes n'ont rien amené à la perfection.
Élie, versets 9 à 13. Lecture de la parole. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, Ne dites à personne la vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et lui répondant leur dit, « En effet, Élie vient premièrement et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur.
Lecture de l'étude. Comme il descendait de la montagne, Jésus enjoignit à ses disciples de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce qu'il fût ressuscité d'entre les morts, pour la même raison qu'il leur avait défendu, au chapitre précédent, de dire qu'il était le Christ. La scène inoubliable à laquelle ils venaient d'assister, plaçant devant eux la certitude de l'établissement du royaume en gloire, soulève une question concernant le prophète qui devait venir avant l'établissement du royaume et qui est appelé Élie. Malachie 4, verset 5.
Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel.
Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Si le royaume allait s'établir, pourquoi Élie n'était-il pas venu? Le Seigneur répond qu'en effet, Élie vient premièrement et rétablira toute chose, ainsi qu'avait dit Malachie dans le passage cité plus haut. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, et il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Les scribes avaient raison, un prophète sera suscité du milieu du résidu, une fois les Juifs rentrés en Palestine, et il agira dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le peuple à Dieu avant l'établissement du règne de Christ. Le Seigneur ajoute, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. En effet, lorsque les Juifs demandèrent à Jean qui il était, il leur répondit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Jean 1, verset 23. Voir Matthieu 3, verset 3.
Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète, disant, « Voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers.
Il accomplissait la prophétie d'Ésaïe 40, verset 3, en préparant le chemin du Seigneur dans les cœurs par la parole de sa prédication.
La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu.
Il était aussi celui dont Malachie avait parlé, chapitre 3, verset 1.
Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées.
Passage cité par Zacharie, père de Jean, en Luc 1, verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Le Seigneur confirme l'application de ce passage à Jean le baptiseur. À Matthieu 11, verset 10.
C'est ici celui dont il est écrit, « Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. »
Et Luc 7, verset 27. C'est ici celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » De sorte qu'il était vrai qu'un prophète viendrait encore avant l'avènement de Christ en gloire, et qu'Élie, dans la personne de Jean le baptiseur, était venu avant l'apparition de Christ en grâce. Comme on avait traité le précurseur, méconnu et mis à mort, ainsi aussi on traiterait son Seigneur. Combien la parole de Dieu est précise et sûre. Ce qui demeure encore à accomplir se réalisera avec la même exactitude que ce qui a déjà eu lieu. Celui qui croit cette parole et s'appuie sur elle pour toute chose possède seul, au milieu de la confusion des pensées des hommes, la vérité à l'égard du passé, du présent et de l'avenir. En dehors d'elle, il n'y a aucune certitude et par conséquent ni paix ni bonheur. Impuissance des disciples pour chasser un démon, verset 14-21.
Lecture de la parole. Et quand il fut revenu auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se jetant à genoux devant lui, et disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique, et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu, et souvent dans l'eau, et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le tensa, et le démon sortit de lui, et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, venant à Jésus à l'écart, dirent, « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ? » Et Jésus leur dit, « À cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » Et rien ne vous serait impossible, mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne.
Lecture de l'étude. Pendant la scène merveilleuse de la transfiguration, il s'en passait une bien différente entre la foule et les disciples. Ceux-ci, aux prises avec la puissance de Satan, ne pouvaient chasser un démon qui tourmentait cruellement un jeune garçon. Voyant arriver Jésus, le père se jeta à genoux devant lui en disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique, et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu, et souvent dans l'eau, et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit aux générations incrédules et perverses, « Jusques à quand serai-je avec vous, jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le tensa, et le démon sortit de lui, et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Les disciples demandèrent à Jésus pourquoi il n'avait pu chasser ce démon. Il leur répondit que c'était à cause de leur incrédulité, et à la suite de cela leur enseigna deux choses importantes. Pour profiter de la puissance du Seigneur qu'il avait mise à leur disposition, il fallait la foi. Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, mais ce pouvoir ne pouvait s'exercer sans la foi réelle en la personne du Seigneur, seule source de cette puissance. S'ils en avaient seulement comme un grain de moutarde, exemple d'une chose très petite, ils pourraient déplacer une montagne, c'est-à-dire vaincre la difficulté la plus insurmontable. Quelle chose merveilleuse que de voir le Seigneur communiquer aux hommes, si nuls à tous égards, le pouvoir de tout surmonter par la foi en lui. Cette puissance demeure à notre disposition pour accomplir ce que le Seigneur demande de nous aujourd'hui. Il ne nous appelle pas à guérir des malades et à chasser des démons. Cependant, s'il nous le demandait, nous le pourrions par la foi en lui. Mais à le suivre ici-bas, à marcher dans la séparation du mal et dans l'accomplissement du bien. Nous rencontrons des difficultés insurmontables pour notre faible nature, mais avec la foi, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie, en celui qui lui avait dit, ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Philippiens 4, verset 13 et 2 Corinthiens 12, verset 9. Il est bon de s'exercer dès la jeunesse à profiter de la puissance du Seigneur en le faisant entrer dans tout ce qui nous concerne. Elle reste toujours à la disposition de la foi pour soutenir la fidélité et la piété au milieu de ce monde où tout s'oppose à Christ et à ceux qui veulent lui être fidèles. La seconde chose que Jésus enseigne à ses disciples et à nous aujourd'hui, c'est que non seulement la foi seule peut profiter de la puissance du Seigneur, mais qu'il faut un état d'âme qui permette de pouvoir compter sur le Seigneur. Il dit, Cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous ne possédons pas en nous-mêmes la puissance dont nous avons besoin pour la marche et le service, comme une provision à laquelle nous pouvons puiser. Elle est dans le Seigneur. Elle exige, comme nous l'avons vu, la foi qui ne se réalise pas sans un état d'âme caractérisé par la prière, la dépendance du Seigneur et le jeûne, figure du renoncement à tout ce qui satisfait et excite la chair et détourne le cœur par les choses d'ici-bas. Si le cœur en est rempli, comment peut-il se confier dans le Seigneur? Elle lui ôte toute spiritualité et toute capacité pour discerner la volonté du Seigneur. Et si alors nous voulons recourir à ses promesses dans nos difficultés, nous ne le pouvons pas. C'est pourquoi il est dit « La piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. » 1 Timothée 4, verset 8. C'est donc dans la séparation du mal et du monde pour le Seigneur que nous pourrons compter sur lui et faire l'expérience de sa puissance.
Verset 22-23, lecture de la parole. Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour il sera ressuscité. » Et ils furent fort attristés.
Lecture de l'étude. Dans les versets 22 et 23, Jésus rappelle aux disciples qu'il va être livré entre les mains des hommes, qu'ils le feront mourir, et que le troisième jour il ressuscitera. Ils en furent fort attristés. Le Seigneur ne voulait pas que les circonstances qui passaient devant leurs yeux détournassent leur pensée du fait fondamental de toutes leurs bénédictions présentes et futures. Car à quoi aurait servi la scène de la transfiguration qui les assurait de leur part dans la gloire à venir? À quoi servait la puissance de Christ dont ils pouvaient disposer si Jésus ne passait pas par la mort et la résurrection, fondement de tout ce que Dieu voulait accomplir en faveur des pécheurs que nous sommes par nature? Demeurés tous dans notre misère, la gloire nous eût été fermée pour l'éternité. La pensée de la mort de Jésus attristait les disciples. Il ne pouvait en être autrement, mais la joie qui devait en découler est incomparable et éternelle. Les disciples la connurent déjà ici-bas. Jean 16, versets 20 à 22.
En vérité, je vous dis que vous, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, et vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôte votre joie.
Pierre l'appelle une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, verset 8.
Croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse.
Tout croyant peut en jouir en attendant le beau moment où le Seigneur lui-même jouira du travail de son âme, alors que tous ses rachetés seront autour de lui glorifiés. Les 10 drachmes, versets 24 à 27.
Et lorsqu'ils furent venus à Capernaum, les receveurs des 10 drachmes vinrent à Pierre et dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes ?» Et il dit oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant, « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tribus ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ?» Pierre lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui dit, « Les fils en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui montera, et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le, et donne-le leur pour moi et pour toi. »
Lecture de l'étude. Jésus et les disciples arrivent à Capernaum au moment où l'on percevait un impôt prélevé pour le temple, probablement celui prescrit par Moïse en Exode 30, versets 11 à 16.
L'Éternel parla à Moïse, disant, « Quand tu relèveras le nombre des fils d'Israël selon leur dénombrement, ils donneront chacun une rançon de son âme à l'Éternel. Lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu d'eux quand tu en feras le dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui passeront par le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, Avin guéra le cycle, un demi-cycle en offrande à l'Éternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donneront l'offrande de l'Éternel. Le riche n'augmentera pas, et le pauvre ne diminuera pas le demi-cycle, lorsque vous donnerez l'offrande de l'Éternel, pour faire propitiation pour vos âmes. Et tu prendras des fils d'Israël l'argent de la propitiation, et tu le donneras pour le service de la tente d'assignation, et il sera pour les fils d'Israël un mémorial devant l'Éternel, afin de faire propitiation pour vos âmes.
Ou celui établi par Néhémie pour le service de la maison de Dieu. Néhémie 10, verset 32-33.
Et nous nous établîmes des commandements, nous imposant le tiers d'un cycle par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains à placer en rangée et pour l'offrande de gâteaux continuels, et pour les holocaustes, l'holocauste continuel, celui des sabbats et celui des nouvelles lunes, pour les jours solennels et pour les choses saintes, et pour les sacrifices pour le péché, afin de faire propitiation pour Israël et pour toute l'œuvre de la maison de notre Dieu.
Les receveurs de cet impôt demandèrent à Pierre, votre maître, « Ne paye-t-il pas les 10 drachmes ?» Pierre répondit « Oui ». Il avait raison en ce sens que le Seigneur Jésus, devenu homme, s'est soumis comme tel, né sous la loi, à tout ce qui était établi sur le peuple. Mais si Pierre eût pensé à la gloire de sa personne comme fils de Dieu et fils de l'homme, dont il avait été témoin sur la sainte montagne, il n'eût pas été si prompt à répondre. Lorsqu'il rentra dans la maison, Jésus, qui possédait la toute science divine, sachant ce que Pierre venait de répondre au receveur, lui dit « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers ?» Pierre lui dit « Des étrangers ». Jésus lui dit « Les fils en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère, prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. » On remplirait des volumes à parler de la gloire, de la grâce de Jésus, et des enseignements pratiques que contiennent ces paroles merveilleuses. Jésus fait comprendre à Simon que lui, le fils du roi du temple, n'est pas soumis aux impôts. Et pas davantage à l'impôt du temple, puisqu'il est le Seigneur du temple. Mais sa grâce vient unir à cette gloire, comme fils, un pauvre pécheur de la Galilée, ainsi que chaque croyant, et le Seigneur, réalisant l'humilité dans l'humanité qu'il avait prise en grâce, embrasse Pierre avec lui dans sa réponse, lui disant « Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va, etc. » Ces quelques paroles nous donnent un aperçu de l'infinie grandeur de notre précieux Sauveur et de sa grâce merveilleuse. Sa gloire royale y est présentée comme son abaissement, sa gloire de Créateur, de Fils de l'homme, qui a le pouvoir de disposer de tout dans la créature, sa toute science par laquelle il savait qu'il y avait un statère dans la bouche d'un poisson, sa puissance qui faisait arriver le poisson à l'hameçon jeté par Pierre, et comme homme la soumission aux lois sous lesquelles le peuple se trouvait. Il illustrait, par son exemple, ce qu'il a fait écrire par ses serviteurs en Romains 13, versets 5-7 et 1 Pierre 2, versets 13-17, afin de n'être pas en scandale aux hommes.
C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience, car c'est pour cela que vous payez aussi les tribus. Car ils sont ministres de Dieu, s'employant constamment à cela même. Rendez à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut, à qui le péage, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part, pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Car c'est ici la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Car si le croyant doit vivre dans la conscience de la haute position où la grâce l'a placé, il n'a aucun droit à faire valoir dans ce monde pendant que Christ ne fait pas valoir les siens. Il y a de quoi remplir nos cœurs d'admiration et de reconnaissance en voyant, si faiblement que ce soit, la personne de celui qui a quitté la gloire pour venir mourir à la place des coupables, afin de nous placer dans la position de fils devant Dieu, avec lui, semblables à lui. Nous comprenons qu'il faudra une capacité et des corps parfaits et glorieux pour voir et comprendre les gloires infinies de la personne du Seigneur Jésus-Christ, et rien moins que l'éternité pour en jouir et lui rendre, en adorations et en louanges, ce qui lui revient pour tout le déploiement de sa grâce et de son amour envers nous qui, par ses souffrances et par sa mort, avons été rendus propres pour la gloire éternelle. Déjà nous pouvons chanter « L'âme reste confondue devant cet amour béni, plus vaste que l'étendue, profond comme l'infini. Aussi, notre cœur désire le moment de ton retour pour voir, pour sonder, pour dire les grandeurs de ton amour. »